Donc ce soir, samedi soir, au Printemps Photo Révolté, c'est la soirée autour de l'écoféminisme. Donc on commence avec David Dufresne. Merci d'être là. Ensuite, il y aura deux intervenantes qui nous parleront de leur métier, de leur travail d'agricultrice et de paysanne. Elles seront accompagnées par Sophie et Flora, qui font partie de l'organisation. Et ensuite, il y aura un film dont j'ai complètement oublié le nom. Ni les femmes, ni la terre. Voilà. Mais d'abord, on commence avec David Dufresne et le livre qui vient de sortir, enfin, en tout cas cette année, Remember Fessenheim. Donc, bonjour David Dufresne.
Bonjour.
On ne vous
Merci
présente
beaucoup.
Plus. On ne vous présente plus, mais on va quand même vous présenter. Donc, vous êtes journaliste, écrivain et aussi réalisateur. Vous avez travaillé pour Libération, puis vous avez été un des fondateurs...
Mais je ne comprends pas, il y a 20 minutes, tu m'as dit on peut se tutoyer.
Ah, c'est vrai.
Et là,
c'est vrai.
Là, tu es repassé.
Je suis reparti, mais c'est le micro.
Alors,
je crois que c'est le micro.
Je crois savoir, ça n'a pas l'air, mais c'est très sérieux ici. Voyez, nous, on a une... vous voyez, là, c'est l'heure. Donc, il ne faut pas qu'on déconne. Donc, ils nous ont expliqué que ces micros-là ne marchaient pas, mais avaient été gardés pour la décoration, pour faire sérieux, d'où le vouvoiement.
Voilà.
Donc, il va falloir être sérieux.
Soyons sérieux, donc. C'est parti. Je vais dire vous, tu. Voilà. Je pense que ça va arriver plusieurs fois.
Tout va bien.
Donc, oui. Donc, journaliste, fondateur de Mediapart, un des fondateurs, en tout cas. Et maintenant... Tu as ton média web à toi qui s'appelle Au Poste, dont peut-être on parlera un peu.
Avec plaisir, oui.
Tu as réalisé un excellent film documentaire qui a été projeté il n'y a pas si longtemps, en tout cas peut-être l'année dernière, je ne sais plus, à Limogne-en-Quercy, à 15 minutes d'ici.
Absolument, oui.
Un pays qui se tient sage, qui était sorti en 2020 et qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était un film donc constitué de différentes vidéos tournées pendant le mouvement des Gilets jaunes. Les vidéos étaient tournées par des manifestants ou des journalistes indépendants. Et ces vidéos montraient essentiellement des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Il y avait des intervenants divers qui commentaient ces images-là, les uns après les autres, sans que nous soit dévoilé leur rôle, leur métier. Voilà, on le savait seulement à la fin du film. On était obligé de regarder le film jusqu'au bout pour savoir qui était chauffeur routier, sociologue, juriste, général de gendarmerie. Un très beau film. Et tu es aussi écrivain de romans, mais aussi de récits d'investigation, où ton travail de journaliste sert admirablement tes enquêtes. Et aujourd'hui, tu es invité pour donc cette soirée autour de l'écoféminisme, alors que tu es un homme, mais pas n'importe lequel, puisque tu es le petit-fils de Françoise Daubonne, qui est donc la pionnière de l'écoféminisme. C'est elle qui a inventé ce terme. Peut-être qu'on peut... parler un peu de Françoise Daubonne, la resituer un peu, brosser un portrait.
Oui, alors effectivement, en 1975, elle va non pas théoriser l'écoféminisme, mais en tout cas lui donner le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais en réalité, c'est une idée qui circule à l'époque un peu partout, que ce soit en Inde, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, etc. Mais elle, effectivement, elle va dans un livre qui est sur la table de l'excellente librairie La Chamade, dont je viens de comprendre que c'était tiré en fait d'un roman de François Sagan. Moi, c'est bien, bien foutu. Et donc, voilà. Et donc, vous le saviez? Tout le monde le sait. Ça y est, je suis censuré. Je ne dis pas du mal de François Sagan, là. Au contraire. Bon, bref.
Ah non.
Alors, bien sûr. Alors, donc, qu'est-ce que je disais ? Voilà, donc 75, elle utilise ce terme. Et d'ailleurs, pour être tout à fait exact, donc, dans un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort », qui a été réédité et qui se trouve sur la table de l'excellente librairie La Chamade, le terme, en fait, écoféminisme est différemment orthographié dans le même livre. Un coup, c'est un seul mot. Un coup, c'est éco-féminisme. Un coup, c'est éco/féminisme. Et je dis ça pour dire que, bah, à l'époque, on est vraiment dans les prémices de l'écoféminisme qui, aujourd'hui, on le verra probablement avec le témoignage des deux personnes tout à l'heure, mais qui par rapport à l'écoféminisme de Françoise, qui restait sommaire, on pourrait dire, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup développé, et effectivement, pas par des chercheurs, mais par des chercheuses. Et la question de « est-ce qu'un gars peut parler de tout ça ?» en fait, a fait que j'ai vachement attendu avant d'écrire sur Françoise, parce que je me disais, bon, après tout, suis-je bien légitime, etc. Et donc, en fait, de Françoise, je parle de choses dont je me sens peut-être un petit peu, en tout cas, obsédé, quoi, tout ce qui est l'activisme, l'action, la confrontation avec l'État, la confrontation avec les représentants de l'ordre établi, etc. Donc, c'est surtout l'aspect activiste de Françoise, mais l'aspect activiste de Françoise ne peut absolument pas s'expliquer si on ne sait pas qu'elle a été écoféministe, puisque son fait d'armes, on le verra tout à l'heure, parce que tu m'as expliqué que pour toi, ce qu'il y a de plus terrible, c'est quand un auteur répond à la première question aux 10 questions qui suivent. Exactement. Et là, c'est je suis en train de me passer. Dire, putain, je suis parti là, donc je m'arrête ici. Voilà.
Alors, comment
alors deuxième question.
Tout à fait.
Alors, donc, ça, c'est la huitième, donc.
C'est ça.
Pardon.
Oui, c'est vrai que Françoise Sagan, c'est un Françoise Sagan.
Alors, sur Françoise Sagan, j'ai rien à dire, mais on peut dire une heure quand même, si vous voulez. Françoise Sagan. Alors.
Daubonne.
C'est pas
Françoise Daubonne. Ah, on va y arriver. Donc, oui, il y a l'écoféminisme, mais c'est aussi un personnage très révolutionnaire. Et je pense que c'est ça aussi qui est important dans ce livre, mais aussi dans cette soirée et dans ce festival. Et je pense pour le public, c'est de se dire que c'est quelqu'un qui va saboter. Et donc, le livre s'appelle comme ça aussi. Remember Fessenheim, parce qu'il y a peut-être aussi une Françoise Daubonne avant Fessenheim et une après, parce qu'elle elle le dit, c'est un moment important pour elle. Oui. Et c'est le moment où peut-être justement elle va lier sa lutte féministe à une lutte écologique.
Absolument, c'est ce qu'elle va appeler le sommet de sa vie dans ses mémoires. Alors il faut peut-être un tout petit peu, donc là on est en 1975, on est lors du week-end du 1er mai, et en effet avec son amant de l'époque, elle va faire sauter la centrale de Fessenheim, alors en construction. Alors on va sans doute rentrer un peu dans les détails. C'est une aventure, c'est vraiment une aventure parce que c'est quand même les pieds nickelés du sabotage. Mais enfin, ils y parviennent. Mais il faut resituer un tout petit peu qui elle est. En fait, c'est une dame qui naît en 1920 et qui va, je vais aller très très vite, mais qui dès l'âge de 9 ans, va écrire 200 pages dans un concours de nouvelles qui était calibré pour 5 pages. Et en fait, toute sa vie, elle ne va faire qu'écrire, écrire, écrire. Elle va publier 120 livres. Elle va laisser à peu près 15 000 pages de notes, sans compter ses carnets, ses carnets intimes, ses notes éparses, etc. Voilà, c'était une graphomane, on peut dire ça comme ça. Elle va à 20 ans, s'extraire de son milieu familial, qui est donc aristocrate, puisque son vrai nom, c'est Françoise Piston Sagan. Non. C'était juste pour voir. Françoise Piston Daubonne. Bon, bref. Et elle est en fait d'extraction, on pourrait dire. Alors c'est un peu curieux, mais c'est les années 20, donc c'est à la fois une extrême droite qui peut être sociale par certains côtés. Son père Étienne, qu'elle adorait, avait fait Verdun, et quand Pétain va arriver, il sera maréchaliste parce que pour lui c'est le héros de Verdun, le maréchal Pétain, etc. Et donc elle s'extrait de ça pour aller du côté de la gauche. Elle s'extrait donc de son milieu social. Elle tourne le dos à une aristocratie par ailleurs totalement déchue, puisque on se chauffait en brûlant les emprunts russes pour allumer le feu. Bon, voilà. Donc c'était des gens qui n'étaient pas forcément riches, mais qui était aristo. Elle quitte ça, elle quitte la droite. Et elle va rencontrer la résistance, et ça, c'est très, très important, parce que ça explique pourquoi, 25 ans plus tard, elle sera une activiste physique, c'est-à-dire avec un engagement physique, là où ses camarades, notamment du MLF, même du Phare, etc., dont on va parler, ne sont pas forcément là-dedans. Elle a eu cette expérience, même si elle a été une petite résistante, plutôt une messagère, mais tout de même, elle a vu un de ses camarades être arrêté, comme dans les films, sous ses yeux, etc. Donc elle a ça en elle. En 68, elle jette tellement des pavés sur les CRS que sa fille, donc ma mère, l'engueule en disant quand même ça se fait pas, etc. Alors qu'elle, dans ses mémoires, a dit que, bien que déjà grand-mère, elle adore ça. Voilà, elle jetait. Voilà. Elle leur chante des chansons qui sont. Enfin, je veux dire. Bon, je sais que Darmanin est occupé là, donc on pourrait presque les citer, mais enfin. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes. Enfin voilà, des chansons, ça a envoyé quoi. Et donc c'est très important. Dans les années 60, dans les années 50, elle va très très vite démissionner du Parti communiste. Dès 1953, parce qu'elle considère que le PC n'est pas clair, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'Algérie, puisque le PC est pour l'Algérie, enfin à l'époque, la gauche est pour l'Algérie française, hein, c'est quand même Mitterrand, le ministre de l'Intérieur, puis de la Justice, c'est quand même lui qui fera couper le plus de têtes, que, même si en 80, il fera abolir la peine de mort, il en a tronçonné quand même un certain nombre. Bon, bref, elle se retire de ça, et elle va gagner la cause homosexuelle, quand bien même elle ne l'est pas, elle, et la cause féministe. Là, je vais vraiment très, très, très vite. Donc, elle est de tous les combats contre pour l'avortement. Et elle va participer aux premières réunions du MLF. Mais les places sont un peu prises. Donc, elle rejoint plutôt le Phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et là, je vois que je suis déjà à la septième question. Ça va encore ? Ça va ? Et donc, en fait, elle va être, à ce moment-là, elle va être prise de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, et c'est sans doute ce qui vous réunit ces quatre jours-là, ici, de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'éco-anxiété. Et en fait, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Meadows, qui dira sans doute quelque chose à certains d'entre vous, qui est du nom d'un couple, en fait, mais en réalité, c'est toute une équipe de chercheurs du MIT qui, en 69, en fait, écrit exactement le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, la planète a des limites, on est en 69, et si on continue comme ça, on va épuiser la planète. Et elle est frappée par ça. Elle est vraiment frappée par elle qui était pleine de joie de vivre, de toujours à faire des conneries, à déconner, etc. Ça, elle prend ça très, 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 très au sérieux. Alors, le rapport Meadows, à l'époque, était beaucoup sur ce qu'on appelait la surpopulation. Et donc, il y a eu quelques malentendus par rapport à ce rapport, puisqu'il y a des... Alors, c'est un rapport qui a été publié régulièrement, hein, qui a été mis à jour, mais parmi les malentendus, certains ont considéré que, comme était un rapport occidental, américain, enfin nord-américain, en fait, il s'en prenait aux familles africaines à propos de la surpopulation, alors qu'en réalité, pas du tout. Quand on regarde, quand on lit le rapport, évidemment, et Françoise aussi, évidemment, un enfant occidental a ce qu'on appellerait aujourd'hui une empreinte carbone nettement plus élevée qu'un enfant africain. Donc la question, elle est absolument pas là. Mais bon, elle est prise par ça. Donc elle va rejoindre en 1974 la péniche qui est sous le pont de l'Alma à Paris d'un dénommé René Dumont. Qui a voté René Dumont ici ? Monsieur, je m'en doute. C'est marrant, je m'en doute, vous. Madame ? Ah ben voilà, voilà pourquoi il a perdu. Il n'y avait que... Bon. Donc en fait, René Dumont, c'est le premier... en fait, c'est l'avènement de ce qu'on appellerait l'écologie politique. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a un candidat qui se présente au nom de l'écologie. Alors il y a une scène fameuse que vous pourrez retrouver sur YouTube si vous voulez. Alors racontez-nous le verre d'eau. La pomme, je crois que vous l'inventez. Je pense que c'est autre chose la pomme. Mais non, c'est le verre d'eau. Il boit un verre d'eau très longuement, alors qu'il a la parole, ce qui est déjà un peu étrange, parce que c'est pas Georges Marchais, c'est pas Giscard, vous voyez, c'est pas le monde classique. Et ce type, au lieu de parler, il boit longuement un verre d'eau avec un pull rouge comme ça, des lunettes, etc. Et il repose et il dit voilà, ça, dans 50 ans, ce sera extrêmement rare. En fait, il annonce exactement ce qui se passe. Donc c'est une scène, c'est aussi le début finalement aussi de la politique spectacle d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est un geste comme ça de télévision. Bon voilà. Et Françoise, comme toujours, elle s'engueule avec tout le monde très vite, mais elle garde un truc. C'est lors d'une réunion avec l'équipe de René Dumont, dont certains deviendront par la suite ministres comme Brice Lalonde. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Voilà. Comment ? Voilà. Bling bling, absolument. Mais à l'époque, c'est un jeune militant et il avait des souvenirs très très chaleureux de Françoise qui arrivait toujours en retard aux réunions, me disait-il, qui parlait, qui partait avant même que les autres aient le temps de répondre. Bon bref, voilà. Parce qu'elle était impossible, envahissante, etc. Mais lors d'une réunion, il y a quelqu'un qui lui parle du danger nucléaire. Et c'est là qu'elle se dit, puisque on n'a pas de débat, alors ça, je pense que ça va vous parler par rapport à vos combats, le nucléaire, en réalité, en France, a été totalement imposé par l'État. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat public. C'est ce qu'on appelle le plan Messmer, du nom du Premier ministre de l'époque, 1972. Le nucléaire est imposé au peuple français au nom d'une souveraineté qui est en fait une chimère, puisque la centrale de Fessenheim, c'est en réalité une technologie américaine, nord-américaine. Et comme vous le savez, l'uranium, il n'y en a pas. Même sous les... Enfin, voilà. Il n'y en a pas. Donc il faut aller dans les anciennes colonies en chercher. Donc l'idée de dire, c'est parce que c'était vraiment ça l'argument, c'était la souveraineté beaucoup plus que l'écologie, puisque aujourd'hui on nous explique que c'est décarboné, enfin bon bref. Et donc il n'y a pas de débat, il va y avoir jusqu'à 4000 scientifiques qui vont demander un moratoire en disant il n'y a pas eu ce qu'on appellerait aujourd'hui d'études d'impact. Et donc, le nucléaire est parti. Et c'est là où Françoise dit on va faire sauter Fessenheim, qui est à l'époque le fleuron du nucléaire, dans une usine en construction. Hein, donc, il n'y a pas d'uranium, il n'y a aucun risque en réalité. Ils prennent toutes les précautions pour qu'il n'y ait aucune victime, ni blessé, a fortiori, ni mort. Et ils font sauter la centrale. Et là, je fais René Dumont.
Et c'est raconté dans le livre un peu comme un road movie, parce qu'ils sont tous les deux dans une 4L. Donc c'est Gérard Hoff qui est son compagnon de l'époque, et donc Françoise Daubonne. Et donc ils passent plein de patelins, ils récupèrent des bâtons de dynamite, ils arrivent à faire ça. Et ensuite, ce qui est assez jouissif, c'est qu'ils attendent les retombées un peu médiatiques de tout ça. Et on voit bien que le but, c'est surtout de susciter à nouveau une réflexion sur tout ça. De ne pas avoir effectivement fait de blessés, c'est du sabotage, mais pour que des collectifs refassent des appels, pour qu'on remette sur la table ce sujet-là.
Exactement. C'est de la propagande par le fait. Hein. C'est une méthode anarchiste, si on peut dire. À l'époque, les années 70, on compte aujourd'hui des historiens, des historiennes ont cherché. En fait, on compte à peu près 4000 actes de sabotage. Alors, aussi bien de l'extrême gauche que de l'extrême droite. Y a aussi quelque chose. Alors, l'extrême droite, c'est des pains de plastique, et ça, c'est quelque chose qui vient de l'Algérie, en fait. Enfin, y a tout un héritage, en fait. Mais tout ça pour dire que dans les années 70, il y a tous les jours des actes de sabotage. Et il y a pas tous les jours, mais très, très fréquemment. Ce que aujourd'hui Laurent Nunez et Darmanin appelleraient de l'écoterrorisme. J'ai vu qu'il y avait une ou deux personnes qui avaient des t-shirts écoterroristes ici, donc je les salue. Eh bien, on serait vraiment dans quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui, mais à l'époque, en réalité, c'est quelque chose qui est très courant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on ne raconte pas du tout. On dit toujours que les années 70, les groupes gauchistes, notamment maoïstes, ont refusé la lutte armée. C'est vrai, si on compare avec l'Italie, avec l'Allemagne. Mais par contre, de dire qu'il n'y a pas eu de militantisme, on va dire, physique, activiste, c'est vraiment faux. En réalité, il y en a eu. Et ça, évidemment, ça en fait partie. Le seul truc, c'est que la presse de l'époque, c'est la même que celle d'aujourd'hui. Oui, alors certains rient, d'autres se raclent la gorge, je vois bien que tout le monde est gêné, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que quand on lit la presse de l'époque, mais c'est consternant. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est radio Matignon, quoi. Voilà. À part, les temps ont changé, Europe 1, figurez-vous. Et puis, il y a aussi les communiqués, des différents compagnons, on pourrait dire, ou activistes, ou associations, etc. Et là, c'est pareil, c'est assez rigolo parce que on va avoir les Amis de la Terre tout pacifistes qu'ils sont, ne condamnent pas le sabotage, là où la Fédération anarchiste considère que vraiment, c'est pas le moment, le grand soir n'est pas arrivé, c'est pas bien de faire ça. Enfin bon, voilà. Et Françoise et Gérard sont très déçus. Donc, ils font un deuxième sabotage. Qui est magique. Et alors lui, c'est simple, personne n'en a jamais entendu parler. Il n'y a même pas de brève, il n'y a rien, etc. Bon. En fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont en région parisienne. Comment ? Non, pas chez les chercheurs, chez Framatome, donc qui était l'entreprise pilote qui pilotait le programme nucléaire français. Et ils font sauter l'ordinateur. Direct. Pas une ligne, même dans Libération, etc. Alors, il va y avoir des petits entrefilés dans La Gueule ouverte, que certains ont peut-être lu, d'articles que je soupçonne écrits par Françoise. Parce qu'elle écrit sous son nom et parfois pas sous son nom. Bon, voilà. Où elle règle ses comptes, justement, avec l'humanité. Et le Monde, parce qu'elle n'attend évidemment rien du Figaro et ainsi de suite, mais même la presse de gauche ou dite de gauche, en fait, n'est pas... Voilà, ne... Donc, leur fait d'armes, en réalité, ne provoque pas le débat qu'ils auraient souhaité.
Et alors, dans la forme du récit, parce que quand même, on vous invite à lire ce livre si vous ne l'avez pas lu, tu retrouves plein d'archives. Donc évidemment, il y a des, comme tu disais, il y a des morceaux de parutions de journaux, mais il y a aussi bon, tous les carnets, tous les écrits de Françoise Daubonne qui sont très nombreux, donc à tel point qu'en fait, presque elle est aussi écrivaine de ce livre. Elle participe parce qu'on voit plein de ses passages à elle. C'est comme si elle était là aussi. Et puis, il y a... moi, ce qui m'a frappé, c'est toutes ces brèves, des renseignements généraux qui sont complètement paumés avec ta grand-mère en essayant de la définir à chaque fois. Donc, on voit les années qui passent et ces brèves de renseignements généraux qui disent bon, Françoise Daubonne, alors elle est au MLF, elle est au phare, elle pense ceci, elle pense cela, elle écrit, elle est toute seule chez elle. Enfin, ils savent pas du tout qui c'est. Enfin, ils sont perdus, quoi.
Oui, oui, ils sont à la ramasse, ça on peut le dire. Alors ça, c'est une autre époque. Hein. Parce que ce qui est intéressant, pour moi, quand je fais un bouquin d'histoire, on pourrait dire, c'est de déceler les permanences et les ruptures. Et par exemple, sur le travail policier, il est très clair que ce n'est pas du tout pareil. Par exemple, prenons un exemple tout simple, Julien Leguet de Bassine-Nommercy, vous le savez sans doute, c'est public, il l'a rendu public. Son père avait une balise sur sa bagnole, une caméra devant chez lui, lui-même avait une balise sous sa bagnole. Rien de tout ça n'existait à l'époque. Le seul truc qui existait, c'était les écoutes. En termes technologiques, c'est les écoutes téléphoniques, mais qui s'entendaient. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des dialogues que restitue Françoise avec les mecs qui l'écoutent, qui sont assez rigolos. Parce que de temps en temps, les mecs ne pouvaient pas s'empêcher soit de tousser, soit... Bon, vous verrez. Ah, ça, c'est pas gentil, dit l'un des flics qui l'écoute, parce qu'elle dit du mal de la police. Bon, bref. Voilà, donc c'était quand même... C'était... Voilà. Et il faisait bon être militant à cette période-là. On tombait, comme encore aujourd'hui, beaucoup sur dénonciation que sur ça. Là, aujourd'hui, la technologie, l'espionnage, la surveillance de masse fait que voilà, les choses sont tout à fait différentes. Mais même aujourd'hui, si vous lisez les rapports d'analyse, parce que tu appelles ça des brèves, non, pour eux, c'est des analyses. Parfois, quand même, on se demande d'où ça sort. Même avant ChatGPT, j'avais fait un bouquin sur l'affaire dite de Tarnac. C'était quand même assez curieux ce qui pouvait être extrapolé, interprété par la maréchale. Mais moi, j'avoue, j'ai un petit faible pour la littérature policière.
Alors, comment on fait pour avoir ces... Comment t'as dit? C'est pas bref, c'est des rapports, quoi.
Alors,
des
ça,
rapports...
c'est notes blanches, rapports, notes analyses. Blanches. Et juste pour... Je vais te dire, parce que je vois bien, ça fait trois fois que tu me poses la question. Je vais répondre, mais simplement pour vous donner un petit goût. Dans l'affaire dite de Tarnac, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une ferme, et là, dans un PV de surveillance, dans un procès verbal de surveillance, il y avait un policier de la SDAT, section antiterroriste, qui disait « Nous pénétrons pédestrement dans l'enceinte de la ferme ». Je ne sais pas si tu as beaucoup de livres qui ont cette qualité littéraire. Hein. Moi, je suis désolé, mais bon. Et alors, pour Françoise, effectivement, il se trouve un gars qui, alors que Françoise a déjà publié une quarantaine de livres, qui dit « Françoise Piston de Bonne, virgule, née en 1920, virgule, qui se dit écrivain ». Eh ben moi, j'adore ça, parce que je trouve que ça en dit long sur le travail policier, plus que sur... sur la façon que la police peut envisager le monde. Alors, comment on fait? Alors, ce qui est... là, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que il y a un archiviste de Colmar, que je remercie infiniment, qui a vraiment remué ciel et terre parce qu'il était scandalisé qu'il n'y ait plus aucune archive de la police judiciaire du Bas-Rhin, qui avait donc été chargée de l'enquête. Plus aucune trace non plus du côté de la justice. Et là, ça l'a vraiment énervé. Plus non plus chez le préfet. Je ne sais pas si le gars est un daubonien ou pas, mais c'était l'idée du service public, des archives. Ce n'est pas normal que ces archives n'existent pas. En fait, les archives, vous les trouvez très facilement aux archives départementales, aux archives nationales. Et puis, il y a une spécificité à Paris, c'est les archives de la préfecture de police. Alors là, c'est un poème. Il y a un certain nombre de policiers qui vous apportent les documents. Ils sont hyper sympas. Mais pour des raisons mystérieuses, ils n'ont plus le droit d'exercer sur la voie publique. Ah. On ne sait pas pourquoi. Et on ne demande pas. Donc, ils vous apportent les documents un par un, etc. Donc, en fait, il faut faire la demande. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la loi est très protectrice de la vie privée. Donc, vous ne pouvez pas accéder à des documents, sauf dérogation, à des documents 50 ans après la mort de la... après les faits, pardon. Voilà, 50 ans après. Et moi, ça tombait bien parce que ça a eu lieu en 75. Donc, 2024-2025, j'étais bon, j'avais les 50 ans. Mais évidemment, pour préserver voilà, les uns et les autres, on ne peut pas accéder comme ça. Mais sinon, en fait, ce sont des archives qui sont publiques, mais qui ne sont pas toujours trouvables, qui ne sont pas toujours bien classées. Et puis après, il y a d'autres archives qui sont plus compliquées à obtenir. Et figurez-vous que, mais là, c'est beaucoup trop tard, il y a 2 mois de ça, j'ai reçu l'accord de la famille Giscard d'Estaing pour aller voir les papiers du vieil oncle, donc à l'époque président de la République, parce que figurez-vous que les archives présidentielles n'appartiennent pas au peuple, mais aux ayants droit. Je pense que c'est une revendication à porter pour 2027, entre autres choses. voilà. Et donc, voilà, j'ai reçu, contre toute attente, l'autorisation. Donc, la prochaine fois que j'irai aux archives nationales, je pourrai regarder. Mais n'importe qui, hein, y a pas de... On vous demande pourquoi vous faites des demandes. Aux archives de la préfecture de police de Paris, c'est beaucoup, beaucoup des gens qui font de la, comment on appelle ça, généalogie. Qui veulent savoir comment le grand-père s'est comporté en 43. S'il y aurait des trucs à gratter. Bon, c'est horrible. Mais c'est intéressant. C'est intéressant à vivre.
Je ne sais pas si on a dit que Fessenheim, du coup, ça n'avait jamais été élucidé, en fait. On ne sait pas qui a fait le coup. Et est-ce que c'est toi qui le découvres et qui le dit au grand public ou...
Non. Alors, il se trouve, et ça a été aussi un autre élément déclencheur pour l'écriture de ce bouquin, il se trouve que Françoise, qui était tout sauf discrète, publiquement, n'est jamais allée très loin dans Fessenheim. Hein, d'ailleurs, dans ses mémoires, là où elle peut faire 10 pages sur des choses un petit peu anecdotiques, mais très, 10 très belles pages, hein, sur Fessenheim, une phrase, le sommet de ma vie. Elle met une date, elle dit pas Fessenheim, elle dit le sommet de ma vie. Bon. Et donc, elle a laissé assez peu de traces, parce qu'évidemment, c'était des peines d'emprisonnement. Voilà, c'était un gros truc. Et donc, en effet, la police, en fait, n'a jamais pu remonter jusqu'à elle. Alors, à l'époque, alors que pourtant... Effectivement, tu as parlé d'une 4L, mais elle était orange. Bon. Voilà, 4L orange qui va se garer au pied de la centrale. Enfin, très bien. Elle-même, elle adorait prendre des photos en instamatique où on la voit devant une cabane de chantier, le poing en l'air comme ça. Et elle écrit à la main dans l'album, vous savez, c'était ces albums un peu plastifiés où on collait les photos. Nous trouverons les explosifs. Deux pages plus loin, une auberge. Auberge de Fessenheim. Donc, en effet, si la police était tombée sur ces documents, là, elle était faite. Mais non, la police est restée. A eu deux pistes, on va dire. La piste dite de la bande à Bader, parce que des gens étaient persuadés que dans la 4L orange, c'était la bande à Bader. C'était immatriculé en Allemagne. Pas du tout. Ben, ça a été cru comme ça. Et les militants locaux. Et là, je voudrais vraiment rendre hommage à Jean-Jacques Rettig, qui est décédé depuis, que j'ai rencontré, qui est quelqu'un qui a, dès la fin des années 60, du côté de Fessenheim, a documenté les dangers du nucléaire, qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle contre le nucléaire, et à qui on doit Radio Verte Fessenheim, qui est une des toutes premières radios pirates au milieu des années 70, et donc il m'a raconté ça, il m'a donné le plan de Fessenheim parce qu'il l'avait, il l'avait récupéré, etc. Et lui, il avait été inquiété à deux reprises, et il avait eu ce mot aux inspecteurs en disant je ne sais pas qui a fait le coup, je ne suis pas d'accord avec, mais si je savais qui c'était, je ne vous dirais pas qui c'est.
Et d'ailleurs, c'est toi qui lui apprends. Enfin, en tout cas, dans le livre, c'est voilà. On a ce personnage-là, et tu lui apprends que c'est ta grand-mère.
Voilà, je lui apprends. Je lui apprends en fait en prenant rendez-vous pour lui dire, voilà, je vais vous dire qui c'est, etc. Et en fait, il y a une chercheuse, Caroline Goldgum, je ne sais pas si tu as son livre, peut-être sur la table. C'est elle qui la première a rendu ça public il y a 7-8 ans, on va dire, ce qui a semé un petit émoi dans la famille. Voilà, est-ce qu'il y a non-lieu, pas non-lieu, etc. Bon, de toute façon, les archives sont détruites, donc ils peuvent toujours y aller. Parce qu'il y a quelqu'un que je rencontre, il y a deux personnes que j'ai rencontrées qui les ont aidées, quand même. Et donc ces personnes, l'une n'a pas voulu témoigner sous son nom en disant on ne sait pas de quoi demain est fait, et là il pensait vraiment à 2027 quoi, en gros. Et l'autre, c'est la sœur de Gérard Hoff qui avait tout juste son permis et qui dont je raconte comment elle avait été liée. Mais ces gens-là risquaient beaucoup de prison. Donc en fait on savait un peu dans la famille, mais évidemment, on se taisait, quoi.
On va revenir peut-être un peu sur l'écoféminisme. C'est vrai que donc Françoise Daubonne, elle est quand on la lit, quand tu l'écris, quand tu la racontes, on la voit vraiment flamboyante, tonitruante. Elle prend la place, elle se marre, elle est là, quoi. Et c'est comme si elle n'était pas elle était peut-être trop écologiste pour être avec les féministes et trop féministe pour être avec les écologistes. Et du coup, elle a pour elle l'écoféminisme, et on l'entend sur les plateaux télé à l'époque parler de l'écoféminisme. Elle peut être raillée d'ailleurs si sur ce plateau il y a d'autres femmes autour d'elle. Je pense à un passage en particulier, mais c'est un terme quand même qui a disparu pendant quelques temps et qui a réapparu. Moi, je me souviens, il y a peut-être 10-15 ans, sur les tables des librairies, où tout d'un coup, on reparlait d'écoféminisme, on reparlait de Françoise Daubonne, et c'est peut-être un terme, alors je ne sais pas, mais qui est peut-être qui a une portée peut-être plus claire aujourd'hui qu'il ne l'avait à l'époque dans les années 70-80.
En tout cas, je crois qu'il est plus, c'est plus précis. Je disais tout à l'heure, la vision de Françoise de l'écoféminisme, elle peut apparaître sommaire aujourd'hui. Même certains la trouvent discutable. En gros, son écoféminisme, c'était de dire que l'homme, le garçon, avait volé la terre. Donc la la fertilité aux femmes qui auraient été les découvreuses et les premières agricultrices, enfin en tout cas les premières qui cultivaient, qui cueillaient, etc. Et que donc les hommes ont pris le pouvoir là-dessus et le pouvoir sur la fécondité, sur le ventre des femmes. Donc pour elle c'était un peu ça. Donc c'était discuté, notamment parce que un certain nombre de féministes ne voulaient pas qu'on relie les femmes à la nature en disant, parce que si on fait ça, on va parler de la nature des femmes et on ne veut pas rentrer dans ce schéma-là. Donc il y avait des discussions, mais en fait au-delà de ça, c'était le patriarcat qu'elle voulait absolument détruire, et le détruire absolument pas pour le remplacer. C'est ça qui, moi, me plaît beaucoup. C'est l'idée de dire, on va enlever aux hommes le pouvoir, mais pas pour leur prendre ou le remplacer, pour qu'il n'y ait plus de pouvoir. Que ce soit l'autogestion, quoi, en gros. On va dire ça comme ça. Voilà, la liberté et l'égalité. Voilà. Et donc, pour elle, le nucléaire, c'est le combat de tous les combats, parce que c'est le patriarcat ultime, au sens où c'est la destruction, où c'est l'anti-écoféminisme ultime, puisque c'est la destruction à la fois de la planète potentiellement et la destruction de l'espèce, quoi. Donc pour elle, c'est vraiment là qu'il faut aller. Depuis, les choses ont été sont plus développées. Là, je crois qu'il y aura deux intervenantes qui pourront donner leur point de vue et leur expérience. Ce sera beaucoup plus intéressant que moi je pourrais raconter. Mais c'est vrai que c'est tellement revenu que l'écoféminisme que parfois, on est un peu gêné, c'est-à-dire qu'il y a des coques de téléphone écoféministes, il y a des films écoféministes, mais des films de fiction. C'est aussi un mot parfois un peu fourre-tout, on va dire. Et alors sur ce que tu disais. Parce que ça résume bien son écoféminisme. C'est donc effectivement cette interview chez Bernard Pivot. Donc là, nous sommes en 77. Nous sommes au mois de mars. Nous sommes pas loin du 8 mars. Donc il n'y a que des femmes sur le plateau. Oui. Le reste de l'année, il n'y a que des mecs. Mais là, la journée de la femme, tout ça. Bon, alors Pivot, le jeune Pivot, très excité, un peu taquin. Interview Françoise Debonne pour un de ses bouquins, dont elle qui est une fable de science-fiction, qui est un roman, et c'est en fait une femme qui est à la tête d'un groupe de femmes, et cette leaduse, c'est une mathématicienne, et les femmes ont un problème, et en bonne mathématicienne, elle dit, quand il y a un problème dans une équation, on supprime le problème, donc on supprime les hommes. Et voilà. Alors, ça rigole, etc. Et puis, effectivement, il y en a qui rigolent pas du tout. C'est d'autres invités dont je ne connais pas le nom, très sincèrement. Mais on peut retrouver ça. Alors, fumée incroyable, des cendriers, des micros énormes comme ça. Bon, bref, magnifique. Et il y en a une qui dit, très sérieusement, comme ça, c'est effrayant ce que je viens d'entendre. C'est effrayant. Et Françoise répond, mais j'espère bien être effrayante. Effrayante ou effroyable, je ne sais plus. Enfin bon, mais j'espère bien comme ça, avec son. Comme ça. Et là, Pivot qui se fait tout petit, genre putain, ça part en cacahuète mon affaire. Et voilà.
Et ce roman en particulier, c'est Les Bergères de l'Apocalypse, c'est et ça. Il a été réédité.
Absolument.
Ouais. Bon, je ne l'ai pas sur le stand, désolé, mais voilà, ça a l'air très intéressant. Et c'est, elle dit, elle...
C'est malin pour vendre des cartes de fidélité.
Oui, c'est clair, c'est pas malin. Et donc, elle dit, elle dit justement par rapport à ce livre-là, Les Bergères de l'Apocalypse, qu'elle s'éclate, en fait, que pour elle, c'est une épopée délirante et qu'elle fait aussi, que la littérature, c'est aussi pour s'amuser et se faire du bien. Et elle dit aussi... qu'effectivement, il y a une première partie du livre où bon, on va supprimer le problème, mais surtout, les femmes vont réhabiliter les hommes à un moment donné et effectivement leur prendre le pouvoir pour détruire le pouvoir. Et c'est tout, quoi.
Alors effectivement, c'est quelqu'un qui va écrire toute sa vie, hein, vraiment jusqu'à la écrire et lire jusqu'à son dernier souffle réellement. Donc et d'ailleurs, elle dit de l'écriture que c'est son seul ami qui ne l'a jamais trahi. Pour elle, c'est essentiel. Donc effectivement, elle accorde une importance très importante à la forme. Alors tout n'est pas lisible, hein, très sincèrement. Il y a des trucs puis il y a d'autres livres qui me semblent vraiment lumineux. Mais la question de l'écriture pour elle, c'est au-dessus de tout, en fait.
Au moment où justement on n'entend plus trop parler de ce terme écoféminisme, est-ce que toi, dans ton entourage familial, c'est un terme que vous connaissez, que vous utilisez, que vous transmettez à ce moment-là ou pas du tout ?
Tous les jours,
au petit déjeuner écoféministe.
Tous les jours, bien sûr, avec mes enfants, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Non, même je me moque de moi, c'est-à-dire que pendant très longtemps, je leur disais à mes enfants, moi, l'écologie, le féminisme, j'ai ça dans le sang, m'emmerdez pas, quoi. Et en fait, la question féministe se pose pas tellement, elle est là pour le coup permanente, puisque ma mère va être, donc sa fille va avoir un féminisme tout à fait différent, mais un féminisme. Donc, je l'ai pas découvert, j'ai pas découvert cette question-là dernièrement. Mais après, je disais en déconnant, je parlais de mes enfants, mais c'est à ce moment-là que là, on se dit, ah oui, là, il y a quand même un truc à jouer, que ce soit ça ou que ce soit l'environnement, l'écologie, etc. Et donc, c'est pas par hasard que j'ai replongé dans cette histoire-là pour avoir une forme de proximité, quoi, avec ça, quoi.
Il y a autre chose aussi peut-être dans cette idée d'écrire ce livre. Déjà, à quel moment tu te dis, parce que tu es quand même reconnu comme militant, etc. Tu as quand même plein d'acquaintances avec cette grand-mère militante aussi, mais tu gardes caché cette filiation jusqu'à ce livre. Pourquoi ?
Je suis en garde à vue là ou... J'ai commis un... Pourquoi ? Vous étiez où ces 50 dernières années, là ? Non, mais parce que... Alors, c'était mon jardin secret. Il y avait cette idée de légitimité, est-ce que je le suis ou pas. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui a quand même été, je dois le dire, en tout cas pour ma génération, je crois, une déflagration, c'est MeToo. C'est-à-dire que cette idée que le féminisme, ça concerne aussi les mecs, quoi. Et pas que les... Enfin, c'est aux femmes de le guider, mais voilà, on a une part de responsabilité là-dedans. Donc, voilà. Après, il y a des choses moins glorieuses. C'est que je voulais me faire un nom tout seul, quoi. Hein, je voulais pas qu'on croie que... Voilà. Alors qu'en réalité, bon, vous verrez, il va y avoir des relations avec elle jusqu'à l'adolescence, en ce qui me concerne. Puis après, pas du tout. Mais par contre, pour moi, la grande surprise, ça a été de me rendre compte combien j'ai... essayer modestement d'aller dans son sillage sur tout un tas de choses, parce que ça, elle était une figure influente. L'idée de d'être activiste ou actif et d'écrire, par exemple, c'est une première chose. De s'intéresser, par exemple, je sais très bien que si je vais m'intéresser à l'affaire dite de Tarnac, c'est parce que elle-même s'était intéressée à des mouvements autrement plus violents, comme le groupe Bader-Meinhof ou Action Directe, etc. Et donc voilà, il y a la police, quantité d'autres thèmes que que j'ai pris, mais voilà, il a fallu attendre en fait un certain nombre d'années. Et puis il y avait une dernière raison, c'était que justement les témoins de cette époque, les complices, commençaient à avoir un certain âge et qu'il fallait pas attendre trop, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu deux personnes que j'ai rencontrées qui sont plus là depuis, quoi, parce que voilà, c'est voilà. Donc c'est un concours de circonstances. Et puis il y avait aussi, je trouvais que dans les portraits qui pouvaient être faits de Françoise, je les trouvais très sérieux. Je trouvais que parfois ça rendait pas hommage à sa vitalité, à son grain de folie, et on était dans quelque chose de trop parfois. Trop universitaire, trop sérieux, comme si la vie et la pensée, c'était deux choses différentes. Ah non, pas du tout. Elle, c'était collé comme ça, quoi.
Donc avec ce livre aussi, alors on va dire que tu réhabilites ce personnage-là. Et alors c'est un livre, je tiens quand même à le dire, là on vient de me dire que le temps est compté, donc je vais accélérer.
Mais c'est un livre qui a dit ça.
Je ne dirai rien.
Quel geste a été fait?
Je ne dirai rien. Ça. C'était pas tout à fait ça. C'était plutôt une montre.
Ouf. Ah oui, c'est l'étape 2, ça.
C'est un livre donc où il y a plein de documents d'archives qui est drôle par moment. Il y a des personnages qui sont hyper touchants, ben justement, dont tu disais ce monsieur-là, Monsieur Rettig, ouais. qui est décédé. Et voilà, donc c'est un très très beau livre qui se lit presque comme effectivement un road movie par moment, que ça soit ta grand-mère qui conduise ou toi-même quand tu vas voir les différents personnages. Et puis tous ces documents d'archives là qui sont quand même assez incroyables, je trouve, et très bien agencés. Et je finis avec une dernière question.
Bien sûr.
Puisque
ce n'est pas moi.
Voilà.
je n'avoue jamais.
Tu as un lien avec le territoire. On savait que tu n'étais pas trop loin de temps en temps. C'est pour ça aussi qu'on t'a invité pour le printemps photorévolté. On s'est dit, ouais, on va avoir David Dufresne. Et donc, je voulais quand même savoir, et par rapport aussi au festival photorévolté, un peu, si tu pouvais nous dire un peu ton rapport au territoire et puis un peu ton point de vue sur cette lutte contre Total Energy que nous menons et qui est un peu à l'origine de ce festival.
Merde.
Et zut, il n'a pas préparé la question.
Merde. Alors, sur le territoire, de toute façon, on le sent un peu, puisque même si c'est plus bas, Françoise a, quand je parle du maquis, c'est maquis toulousain. Ma mère est née pas très loin d'ici, etc. Donc voilà, il y a des accroches, familiales. Le lien, il est. Eh ben voilà, c'est fini.
Bien joué.
Alors non, alors sur la deuxième question, je vais être honnête et je suis embarrassé. Je suis embarrassé parce que moi, je n'ai pas votre science sur le bazar, là. Et quand tu dis Total, j'accroche. Je veux dire, oui, parce que tout de suite, je comprends évidemment ce qui est... Enfin, il me semble déduire ce qui est en jeu, c'est-à-dire le greenwashing, tous ces trucs-là, etc. Après, mais c'est rigolo parce que d'une certaine manière, Françoise... poser aussi un peu cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de notre besoin en énergie? C'est ça, la difficulté. Et donc, c'est pour ça que je suis embarrassé. Pardon pour tous ceux qui militent, et qui ont réfléchi à ces questions-là. Ça doit vous sembler être des banalités, ce que je vous dis là, quoi. Donc, je suis vraiment désolé. Mais il y a quand même cette question de... Voilà. Alors, évidemment, il faudrait qu'on baisse notre besoin en énergie. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Bien sûr qu'il ne faut pas se faire avoir par le greenwashing et au poste dont tu parlais tout à l'heure, on a fêté les 50 ans de Total. Enfin, quand je dis fêté, on leur a fait leur fête, quoi. Voilà. C'est une entreprise absolument épouvantable et je ne doute pas une seule seconde que ce qu'ils font ici est épouvantable. Mais me semble-t-il, dans la littérature qui m'arrive de lire de votre combat, parfois je vois plus des gens qui se battent contre une énergie renouvelable. Non mais je sais bien que c'est pas. Je vous dis ce que je sens. Par exemple, les calicots qui sont mis sur la route là, il y en a des magnifiques, extrêmement évidents, total, et d'autres qui pour moi le sont moins. Voilà. J'ai refroidi la salle.
Après, c'est un festival exprès pour justement s'informer sur tout ça et réfléchir ensemble. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Est-ce qu'on fait des échanges avec le public ?
Ah non, là, je crois que c'est raté.
Non, c'est mort. Pas maintenant. Est-ce qu'on parle de Grasset ?
Non. Oui.
Allez.
Bien.
Désolé. Hein.
Non, il y avait une main là-bas. Oui.
Moi, ça m'a donné envie de parler, d'entendre parler de besoins. Moi, justement, c'est quelque chose qui me questionne depuis le début, c'est qu'on n'a pas entendu parler de besoins. On a un peu ces trucs qui nous arrivent, genre des hectares et des hectares de panneaux, et en fait, qui couvrent des espaces qui étaient soit des espaces naturels ou soit des espaces vivriers. Et à aucun moment on se pose la question, est-ce qu'on a besoin de ça ? Et notamment, aujourd'hui, si on parle de besoin d'énergie, alors si on se dit, ok, j'ai besoin d'énergie électrique, ok ? Alors est-ce qu'on a besoin ? Parce que pour créer l'énergie électrique aujourd'hui, il faut des réseaux mondiaux, il faut exploiter des ressources minières à l'autre bout de la planète, il faut exploiter des gens, des personnes, il faut détruire des lieux de vie, il faut détruire des cultures. Ça, c'est le système dans lequel on vit aujourd'hui, c'est le système industriel, et c'est ça que ça demande. Donc moi, non, je suis désolée, je n'ai pas besoin de ça. On ne peut pas me faire croire qu'un être humain a besoin d'exploiter des êtres humains partout sur la planète. L'homme n'est pas fait pour exploiter l'homme. Je suis totalement en désaccord avec cette idée-là. On parle d'anthropocène. Pour moi, c'est pas l'anthropocène. C'est la destruction de la vie par un système qui est mortifère et qui colonise tout. Voilà. Et c'est l'industrie. Et aujourd'hui, je trouve pas ça normal que pour fabriquer une chaise, on ait besoin de pétrole, on ait besoin de polluer énormément de territoires, on a besoin de tuer des gens, on a besoin de guerre, on a besoin de viol, voilà, de tout ce système-là, que ça ait besoin de ça. Donc non, j'en ai pas besoin. Je pense pas que personne ait besoin de ça. On veut pas ça. Personne veut ça. Donc voilà, la fabrication des panneaux, moi je pense que c'est une vraie question, et c'est pas pour moi je vais mettre des panneaux chez moi, hein. Moi j'ai un téléphone portable, moi je porte des habits qui malheureusement viennent de l'autre bout de la planète, qui ont été fabriqués dans des conditions probablement vraiment terribles, mais ça veut pas dire que je suis d'accord avec ça. On roule tous avec une voiture, ça veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut pas dire qu'on en a besoin. Voilà, j'ai dit.
Est-ce qu'il y a une autre question ou remarque ?
Il y a les intervenants.
Oui, il y a les autres intervenants.
Quelqu'un veut s'exprimer sur le livre ?
Moi, ce qui me plaît dans tout ce que vous dites, c'est qu'il y a une dimension d'humour qui semble follement manquer quand même actuellement. Je trouve que les luttes sont difficiles à régénérer avec de l'humour. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est difficile d'avoir le même point de vue que votre, grand-mère sur l'énergie et cette façon de délivrer à la fois un message, mais surtout d'en rire. Ça, je trouve ça formidable. Merci.
Bah, non, je vous en prie. Mais en réalité, elle pensait la même chose que vous. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les groupes maoïstes, gauchistes, c'était pas marrant. Hein? Oh, ça rigolait pas. Voilà. Ça rigolait pas. Voilà. Et aujourd'hui encore, on voit très bien dans certains. Enfin, voilà, il y a des mouvements qui sont plus agiles, plus joyeux. Je parlais tout à l'heure des soulèvements de la terre. Il y a une imagination, il y a aussi, même sur les mots, hein, avec leurs manifestes, etc. Il y a une joie à militer, malgré la répression. Ce qui est difficile aujourd'hui, en fait. Me semble-t-il, ce qui change beaucoup, c'est la répression. C'est l'état de répression dans lequel on est, qui rigole pas, qui rigole pas, et qui laisse pas le temps de rigoler. Donc là, effectivement. Mais voilà, j'imagine que ça traverse aussi le collectif ici, c'est-à-dire cette idée de. Je parlais tout à l'heure des banderoles, il y en a qui sont drôles, quoi, où il y a des jeux de mots, où voilà, ça fait partie du truc, et je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel, parce que si on est déjà dans une lutte qui est difficile, alors si en plus on est emmerdant, bah, c'est pas gagné. Alors, une électrice de René Dumont.
J'ai bien réfléchi. Je devais voter René Dumont, mais je crois que je n'ai pas atteint mes 18 ans cette année-là. Hein ?
Et surtout, c'était 21.
C'était 21. En plus ?
Ouais. Bah
non, alors voilà. Non,
non
alors,
impossible.
On votait activement impossible. Avec mon prof d'histoire et avec les copines, mais je crois qu'on faisait des votes dans la classe. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une question que j'ai. En fait... David, je ne comprends pas que tu ne comprennes pas pour l'histoire de pourquoi est-ce qu'on se bat contre les énergies renouvelables alors qu'il y a bien pire qui sont les énergies fossiles. Hein. Alors, moi, je vais te donner brièvement mon point de vue. Il y a deux circonstances. Il y a la circonstance de l'épuisement de toutes les ressources de base de la planète pour qu'on puisse vivre... Pour l'instant, on a du mal à vivre sans se déplacer. On a du mal à ne pas utiliser certains moteurs. Bon. Et en fait, la planète est vidée. Et c'est des gens comme Arthur Keller ou même Jean Covici ou Biwix qui sont présents sur la table. Il nous reste très, très peu de ressources. Donc, il faut les placer très judicieusement dans quelque chose de valable. Là, par exemple, je prends l'exemple de... des véhicules électriques, remplacer 2 milliards d'autos par des milliards électriques alors que ce n'est pas une solution et que ça va achever de vider la planète, je suis comme une forcenée contre ça. Et là, je suis comme une forcenée. On nous a fait gober que l'énergie renouvelable, c'était un label homogène. Alors qu'en réalité, il y en a des très, très, très mauvaises. Et là, je te renvoie très, très fort à une femme admirable, puisque tu aimes les grands esprits, c'est Yamina Saeb, à la fois ingénieure et dans l'armée, et major, et anthropologue, et une troisième corde à son arc. Elle dit qu'il n'y aura aucune bonne production d'énergie tant que l'énergie ne sera pas définanciarisée. Donc, tout ce que fait Total, c'est du caca. Et également, elle dit très très fort, Total et ceux qui sont formatés de la même façon. Et elle dit aussi très très fort, alors il faut qu'elle soit définanciarisée, et également que tout va être mesuré à aucun outil comptable qui soit financier, qui soit en euros, mais le seul outil qui existe, hein, qui est dans les étagères poussiéreuses de l'Europe, c'est le bilan comptable écologique. Tu mesures le dégât écologique, tu comptabilises avec une unité comptable à trouver, que je ne connais pas, hein, mais l'outil existe. tout ce que tu fais pour avoir cette énergie et tout ce qu'elle va rendre en bienfait. Et tu utilises cet outil-là. C'est ce que j'avais demandé à la réunion publique à Montcuq, où j'étais militante contre les 70 hectares sur des terres agricoles. Donc, la façon de raisonner ces productions d'énergie, elle est totalement faussée, quoi. Il faut juste faire le bilan. Alors, après, on dit que ça coûte trop cher, mais on fait le bilan, sachant qu'à la fin des fins, on ne bouffera pas la finance, on ne bouffera pas les billets verts. À la fin des fins, ce qui va manquer, c'est du matériel. Et ça n'a pas de prix. C'est le seul boulon comptable à faire.
Merci à tous et merci David d'avoir été avec nous. C'était super. Merci.